Merci d'être là. Juste avant de parler à Hugo Meunier, reporter à Urbania, juste vous dire que dans tout de suite après l'entrevue avec Hugo, on va parler avec la chercheuse Christine Gervais, qui est professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Elle a sondé 150 familles, donc parents et enfants, autant des enfants d'âge scolaire que des enfants d'âge secondaire. Et le constat qui se dégage de ça, c'est que les enfants vont pas si mal. Les parents, par contre, là, la cour commence à être pleine mentalement. Donc, on va parler au professeur à la professeure Gervais, pardon, dans quelques instants, tout de suite après l'entrevue avec Hugo Meunier. Salut, Hugo!
Salut, ça va?
Ça va. Écoute, tu as eu une bonne idée pour Urbania. C'est un retour en classe tranquille ces jours-ci, là, dans les universités et dans les cégeps. Puis, tu es allé voir ce qui se passait sur les différents campus. Les jeunes sont contents de retrouver leur chaise à l'école.
Oui, ce qui peut paraître un peu bizarre d'être aussi heureux de retourner à l'école, mais c'est vraiment ça qui se dégageait. Et bon, il y a eu beaucoup d'actualités récemment. Fait que je pense que ça a un peu passé dans le beurre l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, récemment, au début du mois, en fait, de février, qui disait que elle donnait le feu vert pour un retour graduel en classe pour les cégeps et les universités. Et c'est un peu tombé d'un crack. On n'a plus reparlé. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être pas pire d'aller voir concrètement à quoi ça ressemble. Et j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais à absolument rien. À l'Université de Montréal, je suis rentré. Il y a juste le Purel à l'entrée, un gardien de sécurité et tout. Mais en dedans, il y a un semblant de normalité qui m'a quand même pris par surprise. Des gens en cafétéria qui papotent, des classes semi-remplies, parce que c'est un peu ça la consigne. C'est qu'on peut avoir des amphithéâtres ou des classes remplies à la moitié de la capacité, mais quand même, je sais pas pour toi, mais 45 personnes dans un même endroit, c'est pas des choses qu'on voit souvent, sauf au non. Carrefour Laval. je m'attendais pas à ça. Et j'avoue que ça fait un peu du bien, mais surtout pour ces jeunes-là qui étaient très heureux. Tu sais, il y en a un jeune qui retournait, c'était sa première journée de l'année. Donc lui, il disait que c'était surréel. Il a pris du temps pour me parler, mais il avait l'air vraiment heureux. Et là, je réalisais que je prenais un peu de son temps de cours. Et je me suis dit, OK, ça fait tellement longtemps que t'attends, vas-y. Fait que je l'accompagnais dans son cours, un cours de Sciences Po qui était quand même bien rempli. Mais encore là, le prof, ça dépend aussi de la motivation des enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont encore le droit de dire « je veux pas y aller pour toutes sortes de raisons », à commencer par des risques.
OK, ça commence avec le prof. C'est le prof qui décide.
C'est le prof qui décide. Le prof a tous les droits. T'sais, il va pas se faire tordre un bras pour enseigner. Il peut avoir, il y a une pandémie. Donc, on y va vraiment avec le jugement de tous ces gens-là. Mais il y a des profs très motivés comme ce prof-là de Sciences Po. Lui, il avait hâte. Il encourageait, il y avait une trentaine de personnes, il encourageait même les jeunes dans la classe à dire « dites à vos amis que c'est correct, qu'on va respecter les distanciations et tout, on veut avoir du monde. »
T'as visité des cégeps et des universités.
Exact. Donc, l'Université de Montréal, il y avait beaucoup de monde. C'était quand même assez frappant, le Voisin, au pavillon Jean-Briand et tout. L'UQAM, ben, on peut pas rentrer. Il y a un agent de sécurité à la porte qui filtre. Ça prend ta carte étudiante. La mienne n'est pas assez date, fait que j'ai pas pu. Mais j'ai parlé avec des étudiants avant de rentrer. Puis, c'est un peu le même principe. T'sais, c'est beaucoup des cours aussi qui nécessitent du matériel, des studios, des infrastructures, de la logistique. Parce que les cours plus théoriques, je pense qu'ils se font encore à distance, Patrick, puis aussi ceux qui vivent à l'autre bout du monde, ceux qui vivent en région, en banlieue, ben ils restent chez eux quand même. C'est beaucoup des Montréalais. En fait, 100% des étudiants que j'ai croisés, c'est des Montréalais.
Mais bon, là, ça reste le côté purement académique du campus. Ouais. C'est les cours. Puis, il y a une étudiante là, qui t'a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « J'ai l'impression qu'on nous vole des moments importants. »
Ah, tu vois, on a une fusion de cerveaux, Patrick. C'est la courbe qui m'a le plus marqué. Cette étudiante-là, j'avoue, parce que quand je leur demandais est-ce qu'il y a un impact sur la santé mentale et tout ça, on entendait beaucoup parler de ça récemment. Puis c'est arrivé deux fois que les personnes me disaient, écoute, on en parlait ce matin, parce qu'eux autres, c'était un retour, ils se voyaient pour les premières fois au presse. Puis ils disent, on en parlait, puis c'est ça, il y en a une que j'ai rencontrée. Première année en droit, elle dit, j'ai l'impression qu'on me vole des années importantes qui reviendront effectivement pas. C'est des gros moments quand même dans ta vie, de l'entrée à l'université, le côté social. Elle disait, je connais même pas les gens qui sont dans mon propre bac. Et toutes ces débauches étudiantines-là, quand même, qui sont un passage obligé pour beaucoup de monde, ben ils l'ont pas vécu encore. Et c'est un peu la mort dans l'âme, parce qu'ils vont tomber en deuxième année, ils vont une nouvelle cohorte. Je sais pas s'ils vont restimuler un entrée à l'université. Mais j'avoue que ça, c'est un peu triste de les entendre.
Mais c'est vraiment pas la même, c'est pas la même expérience, disons, de campus du cégep, de l'université, quand t'as pas toute la vie étudiante. Là. Puis ça, les gens que t'as interviewés, les étudiants et étudiantes que t'as interviewés, ils t'en ont parlé de ça.
Ben, ils m'en ont parlé, puis c'est sont suivis à nos propres parcours. T'sais, j'ai pas grand souvenir de mon passage dans mon cours de narratologie, mais je me rappelle tellement de la vie sociale, la vie étudiante au cégep, même chose, plusieurs cours très théoriques. J'ai oublié les cours d'histoire de l'art et tout, c'est très important, mais c'est flou, et ce que je me rappelle, c'est les rencontres que j'ai fait là, c'est les moments, ben oui, c'est les bars, pis c'est tout ça, pis ça fait partie de la vie étudiante, et je pense que peut-être, puis tu sais, c'est pas à moi de juger ce que le gouvernement font, mais on peut-être qu'on minimise ou on banalise un peu à quel point boire, c'est pas grave, c'est juste des parties, mais c'est quand même des moments importants dans la vie des jeunes, j'en suis convaincu.
Et les jeunes doivent comme réserver leur place pour pouvoir se présenter en présentiel, sans mauvais jeu de mots.
Oui. Ben, ceux à qui je parlais, ça ne bousculait pas. Peut-être que maintenant, avec l'impact d'Urbania, les gens ont peut-être eu le message que les cours étaient repris, puis peut-être que les gens se sont inscrits, mais j'avoue que j'ai pas vraiment vu de gens qui ont manqué d'espace. Au contraire, là, ils étaient plus en train de faire du recrutement, d'essayer d'avoir plus de gens. Je sais qu'à l'Université de Montréal, ça frappe. À l'UQAM, j'ai pas pu entrer en dedans, donc je sais pas à quoi ça ressemble dans les couloirs. Au Cégep du Vieux, il y avait quand même pas mal de monde, mais beaucoup des départements comme photo, tout ça. Mais c'était des gens excessivement heureux d'aller juste à l'école. Juste ça, c'était le minimum. Mais évidemment, bon, c'est ça. Il faut s'inscrire, mais c'est encore beaucoup les Montréalais et beaucoup les cours plus techniques.
Et Hugo, les étudiants que tu as rencontrés sont contents d'être là, mais sont quand même sur leur garde. Là. Ils savent que tout ça peut leur être enlevé assez rapidement. Là.
Ben, tu vois, c'est un autre bout triste de tout ça. C'est que, on dit qu'ils sont résilients et résignés, très résignés, parce que, bon, les cas baissent et tout ça. Fait que j'essayais de leur faire miroiter un peu d'espoir. Et ils me disaient, ben, on a déjà joué dans ce film-là. Ben oui, c'est un creux de vague, mais il va en avoir un autre. Les variants, puis je trouvais ça triste pour eux aussi d'être déjà un peu, bof, ça va durer le temps des roses, puis après ça, ben, on va retourner en confinement. Et, ben, c'est un drôle de mood. Fait que, c'est intéressant aussi. Ça fait un pont avec ta prochaine invitée, mais l'impact psychologique chez ces jeunes-là est palpable dans mon mini coup de sang, mais j'imagine même pas à grande échelle.
OK. Merci de nous avoir parlé, Hugo.
Plaisir. Salut.
C'était Hugo Meunier, reporter tout-terrain au magazine en ligne Urbania, est allé se promener dans les cégeps et dans les universités. OK, on va continuer à parler des effets de la pandémie sur notre mental, parce que la professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, Christine Gervais, a mené une étude auprès de 150 familles depuis le début de la pandémie. Elle est au bout du fil. Professeur Gervais, bonsoir.
Bonsoir, M. Lacassé.
Donc, votre coup de sonde, c'était pour voir comment vont les parents et comment vont les enfants. Donc, on va y aller dans l'ordre. Comment vont les parents?
Bien, pour commencer en précisant, nous, on a sondé les familles à trois moments. Donc, on les a sondées une première fois au mois d'avril, donc à la fin du grand confinement. Une deuxième fois au mois de juillet, quand on connaissait vraiment un allègement des mesures. Et puis, une troisième fois au début de la deuxième vague, donc au mois de novembre dernier. On a des résultats évidemment qui diffèrent dépendant de ces temps de mesure-là. Ce qui était vraiment important pour nous, c'était de voir comment les enfants et les adolescents comprennent ce qui se passe, l'expérience qu'ils en ont, puis surtout comment ils vont évoluer à travers les différentes phases de la pandémie. Puis on s'intéresse à leurs parents parce que, ben, au tout début, pendant le confinement, les enfants étaient uniquement avec leurs parents. Donc, c'est sûr que leur bien-être est étroitement relié à celui de leurs parents.
Mais je parcourais là, votre étude, là, j'ai lu le compte-rendu dans la presse. Avez-vous été surpris du fait que les enfants, somme toute, s'accommodent bien du changement, mais que c'est les parents, là, les adultes, qui, eux, vivent, disons, des signes d'anxiété qui sont assez inquiétants?
Oui, tout de même surpris, je dois dire que je suis impressionnée par l'adaptation dont font preuve les jeunes participants de notre étude, donc qui ont vraiment une faculté de créer un sens à ce qui se passe, ils intègrent l'information, c'est des jeunes entre 7 et 17 ans, donc on a une grande tranche d'âge, puis vraiment, à chaque temps de de mesures qu'on leur passe sont capables à la fois de nommer des pertes, des défis dans ce qu'ils vivent, mais aussi des apprentissages, des opportunités, des choses intéressantes qui se passent pour eux. Donc, ils sont vraiment capables d'avoir cette vision globale-là, puis pour eux, ça a beaucoup de sens de faire les efforts qu'on leur demande, que ce soit de porter le masque en classe ou de ne pas voir leurs amis pendant une certaine période, parce que jusqu'à maintenant, je vous dirais qu'au troisième temps de mesure, à l'automne, c'est moins clair, mais ils avaient l'impression qu'ils faisaient ça pour passer par-dessus la pandémie, puis que c'était efficace.
Mais il y a quand même, faut quand même faire la distinction entre les enfants plus jeunes et les enfants plus vieux, donc primaire et secondaire. Primaire, ça passe mieux, l'adaptation, mais si je comprends bien, au secondaire, bien là, disons que les signes d'anxiété puis d'écœurement sont plus nombreux.
Oui, particulièrement cet automne. Je vous dirais que les jeunes, cet automne, qui sont en mode présentiel un jour sur deux, puis en enseignement à distance un jour sur deux, donc secondaire 3, 4, 5, on sent vraiment une fatigue. Là, ils sont rendus fatigués de s'adapter, puis il y en a plusieurs qui vont émettre des doutes aussi sur le fait, est-ce qu'on va revenir à une normale un jour? Est-ce que tout ça vaut le coup? Donc, j'entendais parler votre collaborateur de résignation. Oui, il y a une certaine résignation qui, moi, me préoccupe. Donc, les plus jeunes ont de la difficulté à se rappeler de c'était comment avant la pandémie. Beaucoup d'enfants de tous les âges ont beaucoup de difficultés à se projeter dans un après-pandémie. Donc, quand on leur demande ça va être comment à la fin de tout ça, ils ne savent pas. Il y en a plusieurs qui vont dire, je pense qu'on va toujours vivre avec une certaine quantité de COVID. Il faut juste s'habituer à ça. Donc, c'est quelque chose qui est préoccupant.
Pensez-vous que les enfants, puis je pense surtout aux adolescents, quand ils ont répondu à vos questions, quand ils ont des réflexions sur l'avenir, sur la situation présente, pensez-vous qu'ils taisent des émotions?
Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est plus difficile pour les parents de notre échantillon que pour leurs enfants. Donc, la principale hypothèse qu'on fait, c'est que les parents agissent comme un tampon entre l'événement stressant, donc toute la pandémie, les conséquences ou la peur qu'ils peuvent avoir, et leurs enfants pour protéger leurs enfants. Donc, les parents font ce travail-là très, très bien. Ils arrivent à protéger leurs enfants de sorte que leurs enfants se sentent en sécurité, puis ont quand même un niveau de bien-être qui est tout à fait acceptable compte tenu qu'on vit en contexte de pandémie puis qu'ils ont perdu plein de choses au cours des derniers mois. Donc, je pense que les enfants, surtout les plus vieux, sont conscients de cette difficulté-là de leurs parents. Et puis, dans le rôle qu'ils se donnent, c'est aussi de contribuer, si on veut, au bien-être familial en n'en rajoutant pas sur les inquiétudes ou le stress que peuvent vivre leurs parents.
OK. Vous avez constaté là qu'il y a beaucoup de parents, 66 % des symptômes d'anxiété significatifs. Mais écoutez, avant la pandémie, on entendait souvent parler de détresse psychologique. Puis quand on faisait le survol, là, moi, ça m'est arrivé de taper les mots « détresse psychologique » dans Google. Je veux dire, tout le monde souffre de détresse psychologique. Qu'est-ce qui a changé avec la pandémie?
C'est sûr que la charge mentale des parents, autant trop, on leur a posé la question spécifiquement, puis toute l'incertitude de l'organisation du temps avec des enfants en âge scolaire, c'est un gros, gros défi. En même temps qu'eux s'adaptent à un nouveau fonctionnement de travail à distance pour la grande majorité d'entre eux, le fait de être coupés de leur réseau habituel de soutien, donc les parents eux-mêmes ne voient plus leurs amis, ont moins leurs activités, si on veut, échappatoires qui leur permettaient de nourrir leur bien-être ou d'évacuer leur stress. Donc, on y a majoritairement plus accès. Puis, il y a vraiment un effet de fatigue aussi. Tu sais, on compose avec des restrictions nombreuses dans notre quotidien depuis plusieurs mois. Donc, les parents ont mobilisé beaucoup, beaucoup de ressources au début de la pandémie. Pendant le premier confinement, il y a des familles qui ont réussi à produire des choses incroyables pour leur enfant en termes de richesse de l'expérience. Ils ont fait des nouvelles activités, des soupers thématiques. Puis après ça, on voit que ça diminue dans le temps parce que les parents, ils mettent leur énergie ailleurs aussi, ce qui est tout à fait correct. C'est loin d'être un reproche. Mais on voit vraiment que à l'été, toutes les mesures au niveau de la santé mentale s'étaient améliorées chez les parents. Donc, ils étaient moins stressés, moins
anxieux. L'été dernier, ça?
Oui, au mois de juillet. Avec le retour du beau temps, les enfants étaient contents de retrouver une certaine liberté, puis plus de contacts sociaux aussi. Puis là, à l'automne, on constate que ça se dégrade pour les parents, puis que pour les enfants, c'est ça, c'est moins facile aussi.
OK, votre étude se poursuit là encore jusqu'à la fin de la pandémie.
Oui, oui. On aimerait suivre les jeunes pendant une période de 3 ans pour essayer de voir qu'est-ce qui va rester à moyen terme de cette expérience-là en termes de leur trajectoire, puis de leur du sens qu'ils vont donner aux prochaines étapes. Donc, dépendant, si on a réellement une troisième vague à nos portes, on pense les rencontrer à nouveau au mois d'avril, puis sinon, ça irait à l'automne prochain.
Merci de nous avoir parlé ce soir.
Avec grand plaisir.
Salut, bonne soirée. C'était Christine Gervais, professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais.